Merci. Merci Yves. Merci à Yves et Monique et à Joshua pour m'avoir invité, pour avoir invité UPR Info à participer à cette session de formation. Donc, comme Yves l'a expliqué, je travaille pour UPR Info avec Jean-Claude Vignoli que vous avez vu hier. Le but de notre ONG est donc d'aider les activistes, les défenseurs des droits de l'homme à mieux participer à l'EPU. Et comme encore une fois Yves le disait, notre ONG, notre site internet est un outil que vous pouvez utiliser tout au long de votre participation à l'EPU. Pour ce deuxième cycle, il y a plusieurs éléments qui sont importants à prendre en compte. Alors les modalités ont quelque peu changé. Vous êtes au fait des modalités de l'EPU. Il y a les choses qui changent notamment et qui est importante, c'est qu'il y a plus d'États qui peuvent prendre la parole, mais chaque État a moins de temps pour parler. Donc pour vous, en tant qu'ONG, ça a une importance puisque les États doivent se concentrer sur un plus petit nombre de recommandations. Les États ont aussi, certains États, 39 États ont aussi pris l'engagement de faire uniquement 2 recommandations à chaque État examiné. Donc c'est le Royaume-Uni qui était derrière cette initiative. Donc le Royaume-Uni, au premier cycle, il faisait 3, 4, 5 recommandations à un pays. Maintenant, ils vont en faire 2 à chaque pays sur lequel ils prennent la parole. Et il y a 38 autres États qui ont pris cet engagement. Donc pour les ONG, ça a une incidence sur le fait que les États ont un nombre limité de recommandations à faire. Donc pour une ONG, il faut être plus stratégique, mieux identifier les États pour lesquels votre thème est prioritaire. Parce que les États vont plus choisir 5 thèmes différents, même ceux sur lesquels ils ne sont pas forcément très intéressés, et puis les soulever quand même. Là, ils vont devoir se recentrer sur les recommandations qu'ils ont faites en 2008 et les thèmes absolument prioritaires pour eux. Leurs priorités pouvant changer, évidemment, d'un cycle à l'autre. Mais ça, c'est important. Ce qui rejoint aussi donc, cette idée de reprendre les recommandations de 2008, qui est quelque chose qu'on voit de plus en plus. À la session 13, au mois de mai, ça avait été peu le cas, mais là, maintenant, de beaucoup plus, les États font référence et réitèrent les recommandations qu'ils ont faites en 2008 quand ils voient qu'il n'y a pas eu de mise en œuvre par l'État examiné. Donc vous, en tant qu'ONG, quand vous travaillez sur la mise en œuvre après l'examen, donc après l'examen du premier cycle, et que vous vous tournez maintenant vers le deuxième cycle, il est utile de regarder ce qui a été mis en œuvre et puis de retourner voir les pays, les ambassades dans votre pays ou alors les missions permanentes à Genève pour leur dire voilà les recommandations que vous avez faites il y a 4 ans, voilà ce qui est arrivé sur chacune des recommandations. Vous n'êtes pas obligé de vous intéresser à toutes les recommandations que l'État a faites, mais en tout cas celles qui sont sur les thèmes qui vous intéressent ou la recommandation qui sera sur le thème qui vous intéresse, pour concrètement leur donner une information précise sur ce qu'il est advenu de la recommandation qu'ils ont faite en 2008. Et ça permettra de renforcer cette notion de responsabilité par l'État examiné de mettre en œuvre les recommandations. Et pour que l'EPU ne devienne pas un exercice où tous les 4-5 ans, l'État vient, reçoit des nouvelles recommandations sans souci de ce qui s'est passé sur les 4-5 dernières années. Et sans avoir le besoin d'expliquer ce qu'il a fait. On a vu que pour la session du mois de mai dernier, les 14 pays examinés ont parlé dans leur rapport national de 80% des recommandations qu'ils avaient reçues en 2008. Donc tous les États qui se sont fait examiner en mois de mai, sur les 450 recommandations qu'ils avaient tous reçues, en tout, au total, ils ont fourni une analyse sur la mise en œuvre de ces recommandations à hauteur de 80%. Donc, d'une certaine manière, les États examinés sont intéressés et font l'effort de produire une information sur ce qu'ils ont fait. Mais il est aussi question des États qui examinent, des États examinateurs. C'est leur travail à eux aussi d'aller pousser l'État examiné dans ses retranchements et de lui demander ce qu'il a fait. Et si les mesures prises n'ont pas été nécessaires, de lui demander d'en prendre d'autres. Donc ça c'est quelque chose qui est important pour vous en tant qu'ONG. Et puis ça rejoint effectivement donc l'analyse que nous avons faite, qui vous a été présentée hier par Jean-Claude, entre autres, à travers le programme de suivi. Puis les chiffres importants qui en ressortent, c'est la 40% des recommandations qui, à mi-parcours, ont engagé une action de l'État. 40% des recommandations ont suscité une action du gouvernement à mi-parcours, donc ce qui est encourageant. Et puis surtout, ce chiffre très important, c'est que sur 15% des recommandations rejetées, une action a aussi été prise par le gouvernement. Donc il y a toujours un débat sur quoi faire des recommandations rejetées par le gouvernement. Est-ce que pour une ONG, ça vaut le coup d'investir du temps, de l'énergie sur des recommandations qui ont été rejetées par le gouvernement? Mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a quand même des actions qui sont prises par le gouvernement sur ces recommandations. Donc pour vous, c'est un argument pour garder ces recommandations sur la table de discussion, sur la table de négociation, avec les différents partenaires, avec les agences onusiennes, avec les ambassades dans le pays, avec l'institution nationale, les ONG, avec les différents ministères, pour leur dire d'accord, ces recommandations ont été rejetées, mais un non n'est pas forcément définitif. Et donc il y a toujours la possibilité, avec un nouveau gouvernement, avec un changement de politique, qu'une recommandation rejetée puisse au final développer une action d'un État. Donc ça c'est important à garder en tête. Donc voilà pour le deuxième cycle, et puis pour les choses un peu à garder en tête dans votre engagement actuellement. Et puis ensuite, pour ceux qui évidemment ont déjà été examinés au deuxième cycle, je ne sais pas s'il y en a, mais la Zambie, ce sera la semaine prochaine. Donc après, pour la... Il y a le Bénin cette semaine, oui. L'Algérie a été examinée au mois de mai, donc pour la mise en œuvre, bon, ça revient à la même chose, voir ce qui a été accepté par l'Algérie cette fois-ci. Bon, je crois que les résultats... Enfin, l'Algérie n'a pas encore communiqué ses réponses. Donc le rôle maintenant, c'est faire pression sur l'Algérie pour qu'elle accepte le plus de recommandations possibles. Pour qu'on... Si l'Algérie a dû communiquer déjà toutes ses réponses, en fait, puisqu'au mois de septembre, elle a dû le faire. Donc, l'Algérie a dû dire quelles recommandations elle acceptait et rejetait. Donc, vous devriez avoir cette information disponible quelque part. Mais là encore, voilà, que faire des recommandations rejetées? Comment continuer à travailler dessus malgré l'opposition du gouvernement? Voir si elles avaient déjà été rejetées en 2008, pour voir s'il y a une consistance dans le refus du gouvernement de travailler sur certains thèmes, et puis voir comment débloquer la situation là-dessus. Alors, il y a maintenant une possibilité de participer à distance au Conseil des droits de l'homme, d'une manière générale, pas pour tous les points du Conseil des droits de l'homme, mais pour les PU notamment. Les ONG ont la possibilité d'envoyer une vidéo à l'avance, et de ainsi pas venir jusqu'à Genève pour faire une déclaration orale de 2 minutes. Donc, la semaine avant le début du Conseil des droits de l'homme, donc pour les pays comme le Bénin et la Zambie qui sont examinés à cette session de l'EPU actuellement, l'adoption des rapports qui contiendront toutes les recommandations se fera au mois de mars. Et en tant qu'ONG, vous n'êtes pas obligé de revenir au mois de mars. Vous pouvez, mi-février, envoyer une vidéo et souscrire en ligne, vous inscrire en ligne sur l'adoption du Bénin ou l'adoption de la Zambie, et ensuite envoyer une vidéo, et cette vidéo sera diffusée au sein du Conseil des droits de l'homme dans le cadre de l'adoption du rapport sur le Bénin ou la Zambie. Donc pour vous, c'est une opportunité de pouvoir prendre la parole à des frais relativement peu élevés, sachant que ce sont les mêmes règles. Vous avez 2 minutes, il faut parler sur l'adoption du pays, etc., etc. Mais pour vous, ça permet d'avoir accès au Conseil des droits de l'homme de manière un petit peu plus...
Je crois que c'est une option aussi qui est particulièrement intéressante pour les coalitions, parce que comme ça aussi, c'est plus facile de discuter de ce que l'on veut dire. Il y a une sorte de contrôle, la coalition peut garder ça en main. Et puis du coup, dans le débat, c'est aussi important de bien s'assurer d'avoir cette parole qui vienne directement de l'intérieur du pays. Ce qui est toujours la difficulté, parce que sinon, on dépend du billet d'avion, de qui a pu financer, quelle participation... Et c'est vrai que pour pas mal de pays, ça manque. Il n'y a pas la voix de la société civile concernée, je crois. Même on pourrait dire pour une majorité, enfin c'est toi qui me corrige, hein, mais Il me semble que, en tout cas, disons, on va dire pour un nombre important.
Pour un nombre important, voilà, il n'y a pas toujours beaucoup d'ONG nationales. Non.
Voilà, ouais. Ça passe par des ONG internationales. Il y a toujours des commentaires qui vont être, presque toujours des commentaires qui sont faits par des ONG, mais du coup, c'est les ONG internationales qui font ce relais. Donc là, c'est une opportunité qui est effectivement assez facile, parce qu'aujourd'hui, avec la plupart des ordinateurs, il n'y a pas besoin d'une grande qualité. C'est un message simplement que l'on fait. C'est 2 minutes de texte qui doivent être dits, donc on a des capacités assez faciles de pouvoir aujourd'hui produire une vidéo de ce genre. Et de nouveau, pour les coalitions, vous savez que les coalitions ont cette sorte de préférence qui leur est donnée dans la manière dont elles sont prises en considération dans le rapport. C'est marqué « joint statement » pour qu'on les distingue par rapport à des contributions individuelles. Donc, je crois que c'est un instrument, connaissant les difficultés dans lesquelles on est pour des financements, venir uniquement au Conseil pour... à moins qu'on ait un lobby à faire qui est encore important dans la dernière phase. Mais c'est vrai que venir au Conseil uniquement, je dis bien uniquement, si on a d'autres choses à faire, il faut y venir, mais uniquement pour faire un commentaire sur l'adoption du rapport pour lequel on ne va plus rien changer à partir du moment où le rapport a été correctement adopté après le rapport de la Troïka par le groupe de travail, qu'on connaît ensuite au Conseil qu'est-ce qui est rejeté et refusé qu'est-ce qui est accepté et qu'est-ce qui est rejeté de la part du gouvernement, la marge n'est pas énorme et les frais d'avion peuvent paraître assez exorbitants pour l'impact. Donc du coup, la vidéo, elle prend tout son sens, et c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus, parce qu'on n'y pense pas, et donc il faut s'y préparer assez à l'avance pour ne pas rater le coche, parce que si vous y pensez au mois de mars, c'est trop tard. Mais donc ça vaut vraiment, vraiment la peine de faire ceci, parce que ça vous permet à peu de frais de faire entendre votre voix. Et ce qui est surtout important à commenter, je dirais dans ce contexte-là, parce que vous n'allez pas pouvoir, ce que vous allez dire ne va pas influencer la décision, puisque d'abord elle est déjà tout est déjà fixé, et puis en plus de ça, quand vous prenez la parole, c'est en gros pour commenter l'adoption. L'adoption, elle est déjà faite dans le déroulement de la prise de parole. Donc par contre, ce qui est important à bien envoyer comme message, c'est justement sur la manière dont on pense que l'État réalise ses engagements et les recommandations. Donc sur la base de ce qu'il avait déjà été capable de faire ou de ne pas faire justement lors du premier cycle, vous pouvez faire un commentaire sur ce qu'il a accepté, mais vous attirez l'attention des pays qui ont fait les recommandations sur les éléments à suivre par rapport à la mise en œuvre. Donc ça, c'est un message important à envoyer, il sera entendu, et je pense que pour les États qui veulent suivre comment leurs recommandations seront mises en œuvre, c'est quelque chose auquel ils vont véritablement prêter une attention. Puis ensuite aussi de commenter ce qui a été rejeté, ce qui a été accepté, comment est-ce que vous le percevez de la part du pays, c'est aussi, à l'intérieur du pays, c'est quelque chose qui est très important, parce que c'est exactement ce que l'on ne va pas vraiment entendre dans le Conseil, et si on l'entend de la part d'une des grandes ONG internationales, c'est un peu différent, parce qu'évidemment, à bien des égards, on peut déjà savoir ce qu'elles vont dire une fois qu'on voit le résultat. C'est logique. C'est autre chose que d'entendre ce qui vous tient à cœur à l'intérieur du pays. Donc c'est un petit élément, mais c'est une nouveauté, et je pense que ça vaut la peine. Et de nouveau, ça donnera de nouveau ça envoie un souffle, ça ouvre une porte du Conseil qui sinon travaille de façon fermée, parce qu'il n'y a pas de fenêtre, il y a un très beau plafond, mais il n'y a pas de fenêtre au sein du Conseil. Et là, c'est un peu une fenêtre qui est ouverte sur les réalités nationales. Donc je vous engage vraiment à, si vous n'êtes pas présent à Genève, à le faire, parce que là, il y a une opportunité forte qui est donnée, au même titre que le fait d'utiliser, je le répète parce qu'on l'a déjà dit, mais je crois que c'est vraiment important, je le répète au passage, d'utiliser les ressources internet, site web qui existe de la part du Haut Commissariat. Vous aussi, vous les répercutez, je crois, hein. Vous avez fait aussi des liens pour pouvoir suivre les débats qui ont eu lieu pendant les PU. Alors, vous n'êtes pas obligé de retransmettre les 3 heures, mais de nouveau, et on pourra y revenir demain, je rementionnerai ça, quand on fait du travail éducatif ou de sensibilisation, il peut y avoir juste 2 minutes d'un échange entre un pays et son propre pays, mais ça donne une réalité à ce qui s'est passé à Genève. On donne accès à l'intérieur du pays à la réalité de ce qui s'est passé à Genève, et c'est toujours très interpellant, parce qu'évidemment on se met à la place de son propre pays, on se dit mais tiens, pourquoi est-ce qu'ils ont posé cette question, voilà. Donc il y a une utilisation à faire de ces ressources, pas forcément passer les 3 heures de débat, mais trouver quelques éléments comme ça, et ça peut vraiment attirer l'attention et avoir un impact assez important. C'est des instruments qui sont offerts, et je pense qu'on a avantage à les utiliser plus qu'on ne le fait jusqu'à présent. Ils sont vraiment là à disposition, hein. Voilà. S'il n'y a pas d'autres éléments, je vous propose de passer directement en atelier, parce qu'on aura l'occasion de revenir après, une fois qu'on a fait un peu la dernière activité de synthèse. avec un commentaire aussi de Roland. Donc ça nous permettra de reprendre certains éléments de discussion si vous êtes d'accord.